plu et approuvé.
Ça serait quand même lire des livres à la radio et...
Oui. Pondérande, bon, oui, de rappeler à nos chers auditeurs combien les oreilles sont évincées dès l'âge de 7 ans par une lecture individualisée et rendue silencieuse.
Arnache tes mots de traîneau, ouais, DJ littéraire pour lecture collective.
Plus vous retrouvez seul face à vos livres, contactez
Lu et approuvé, la bibliothèque sonore qui compte et raconte des histoires à vivre debout et dormir réveillé. Pas celles que quelques guignols nous racontent à longueur de journée, non, on n'en veut pas et on leur laissera pas le dernier mot.
Chaque semaine sur Canal Sud, nous vous lirons tout haut ce que les gens lisent tout bas.
Une quinzaine à casser des blocs de pierre dans une carrière au bord d'un fleuve africain, et elles ont décidé ensemble de vendre le sac de gravier plus cher désormais. L'enjeu de cette lutte n'est pas seulement l'argent et sa faculté de transformer les rêves en projets, et malgré des vies marquées par la pauvreté, la guerre, l'oppression au travail, les violences sexuelles et domestiques, les casseuses de cailloux découvrent la force collective et retrouvent l'espoir. Cette journée ne sera pas comme les autres.
Tu as donc fini ta journée de travail et tu prends le chemin du retour, marchant aussi vite que tu peux pour arriver avant que le soleil ne disparaisse. Au bout de 10 minutes, au détour du sentier que tu prends d'habitude comme raccourci, apparaît devant toi une silhouette qui semble crapahutée sur 4 pattes, écrasée contre le flanc de la colline qu'elle tentait de gravir. Après un moment, tes yeux arrivent à distinguer une femme ployée sous un fagot. La charge qu'elle porte doit peser un âne mort, tellement la femme est pliée en deux, le torse n'étant pas loin d'un angle droit avec ses jambes. Sans aucun doute, cela ne peut être qu'une de tes camarades de chantier. Et, immédiatement, tu la reconnais. Car comment pourrais-tu ne pas la reconnaître ? À force d'être ensemble, presque quotidiennement, tu les connais toutes. Tu connais leur histoire individuelle. Même si, aujourd'hui, vous êtes logés à la même enseigne, chacune y a échoué en empruntant la route particulière de sa souffrance. Et chaque souffrance est unique. Personne ne peut vivre ni supporter celle d'une autre. Tu ne connais trop bien que celle de Mabileko, car c'est bien elle, là, devant toi, qui s'essouffle à gravir cette côte. Si parmi vous quelqu'un n'aurait jamais dû se trouver à faire ce travail de forçat, c'est cette femme-là. 32 ans d'un mariage heureux et comblé. Son mari avait été instituteur, puis inspecteur d'école. Cela lui avait permis de voyager à travers tout le pays. Mabileko aussi avait beaucoup voyagé. Son premier voyage hors du pays fut d'accompagner à Paris son mari, délégué à une conférence sur l'éducation primaire dans les pays francophones. Elle en avait profité pour faire un tour en Hollande, d'où elle avait rapporté des ballots de pagne ciré wax, super wax et java hollandais. Cela lui avait permis de lancer son commerce, avec la ferme détermination de devenir aussi opulente, dans tous les sens du terme, que les riches femmes yorubas de l'Afrique de l'Ouest. Les célèbres Mama Benz, bien en chair, qui roulaient à Mercedes-Benz. Mais ce fut le voyage qu'elle effectua en Chine avec une délégation de femmes qui avait définitivement consacré sa percée. Ce voyage lui avait ouvert les yeux. Elle avait compris qu'elle continuerait à faire le petit commerce de pagne toute sa vie, comme des milliers d'autres femmes, dans les marchés africains, si elle ne tournait pas le dos à l'Europe, vieux tropisme décolonisé, pour regarder vers l'Asie. Profitant d'une escale de 48 heures à Hong Kong, elle avait acheté de l'électronique, des lecteurs de CD, de DVD, des jeux vidéo et d'autres gadgets, les uns utiles, les autres inutiles. Sa grande surprise avait été les téléphones mobiles, qui s'étaient arrachés comme des petits pains, et pas seulement du fait des riches. Tout le monde en voulait. Des cadres supérieurs aux petits tâcherons, des chauffeurs de taxi aux pêcheurs du fleuve. Les petits fonctionnaires économisaient sur la bière pour pouvoir s'en payer un. En plus, c'était devenu une affaire de mode et toute jeune fille se sentait dépréciée aux yeux de ses pères si son petit ami ne lui en offrait pas un. Au bout d'un an, elle était devenue une vraie femme d'affaires. Elle avait ouvert plusieurs magasins et, pour les approvisionner, elle voyageait plusieurs fois l'an en Asie, dans les Chongqing de Hong Kong ou les Trade Center de Guangzhou en Chine occidentale. Elle ne manquait jamais le Dubai Trade Festival où les prix des marchandises étaient réduits de moitié. Elle gagnait tellement d'argent qu'elle était devenue la pourvoyeuse du foyer. Le salaire d'instituteur, ridiculement bas de son mari, ne servant plus que d'appoint, de l'argent de poche en quelque sorte. Elle avait une vingtaine d'employés, des gérants des magasins ou gardiens qui s'occupaient de sa nouvelle villa. Elle roulait en Mercedes, et comme toute personne aisée dans la société, elle avait pris de l'embonpoint, et par ricochet, son mari aussi. D'ailleurs, on ne l'appelait plus que par le sobriquet respectueux de Mama Kilo, une façon de reconnaître son opulence, au propre comme au figuré. On la respectait parce qu'elle s'était enrichie honnêtement, par son travail et son intelligence des affaires, et non pas en s'appuyant sur des politiciens véreux qui volaient impunément dans les caisses de l'État. Même si, bien entendu, elle avait son réseau de douaniers et de contrôleurs du fils, qu'elle arrosait de temps en temps afin qu'il ferme les yeux sur beaucoup de choses. La maladie de son mari révéla ce qu'elle avait de meilleur en elle. Elle arrêta tous ses voyages d'affaires à l'étranger pour veiller, nuit et jour, sur cet homme pour lequel son amour se renforçait un peu plus chaque jour qui passait. Convaincue qu'elle allait le perdre si elle ne l'évacuait pas à l'étranger, elle se mit à frapper aux portes des ambassades occidentales. Et, malgré les humiliations et les longues queues d'attente, elle réussit à obtenir un visa pour une évaluation sanitaire dans un des meilleurs hôpitaux des États-Unis, là où se faisaient soigner les princes arabes du Golfe. Hélas, après un mois de traitement, les médecins lui annoncèrent l'affreuse nouvelle. La leucémie cancéreuse de son mari était incurable. Et il faudrait le ramener dans son pays pour qu'il y passe les 3 ou 4 mois qu'il lui restait à vivre. Malgré cela, une fois de retour au pays, elle avait continué d'engouffrer des sommes énormes auprès des charlatans qui prétendaient avoir une cure miracle pour cette affection résistant à la médecine occidentale. N'était-on pas prêt à tout face au désespoir? Malgré tout cela, l'inévitable arriva. À la mort de son mari, elle n'avait presque plus d'argent. Les énormes dépenses qu'elle avait effectuées sans compter pour sauver son compagnon de tant d'années avec lequel elle avait élevé une fille et deux garçons, avait raclé toutes ses économies. Son commerce était au bord de la faillite. Dans un marché aussi tendance et concurrentiel que l'électronique, une absence de plusieurs mois était suicidaire. Des concurrents vendant des portables de pacotille, des CD et DVD piratés occupèrent le vide qu'elle avait laissé. Mais cette débâcle financière et commerciale ne l'aurait certainement pas fait échouer sur cette berge du fleuve où elle était réduite à remplir des sacs de gravier pour survivre, ou sur cette colline qu'elle était obligée de gravir tous les soirs comme elle le faisait en ce moment, devant moi, le tout cassé sous la charge d'un fagot. Avec son intrépidité et son expérience, elle aurait sûrement rebondi si, comme des rapaces sur des dépouilles, la famille de son défunt mari ne s'était jetée sur tout ce qu'elle possédait. Tu es plus jeune qu'elle, en fait. Tu as l'âge de son fils aîné. Avec tes grands pas fermes, tu as tout fait de la rattraper. Qu'est-ce que tu marches vite ?
Ne te moque pas de moi, ma fille. Ces rhumatismes rendent mes mouvements de plus en plus difficiles. Mais ça va.
Où as-tu trouvé tout ce bois ?
Je l'ai grappillé, ça et là. Ce n'est pas du bon bois. Ce sont des baguettes sèches qui ne se consument très vite. Elles ne brûlent pas assez longtemps pour cuire la nourriture. Un conseil ? Ne les utilise pas pour préparer des feuilles de manioc. L'avantage, par contre, c'est qu'elles ne donnent pas trop de fumée et sont efficaces pour allumer les braises de charbon.
Il te faut une gazinière, à ton âge. C'est trop pénible, le feu du bois.
J'en ai une, mais c'est le gaz qui manque. Une bouteille de gaz butane, c'est le prix d'un sac de gravier.
C'est pourquoi il nous faut absolument vendre le sac à 15 000 francs. Aujourd'hui, je suis très pressée. Je ne pourrai pas marcher avec toi. On se retrouve demain, ma Bileko, et bon courage. J'espère que nous aurons plus de chance avec ces entrepreneurs.
Oui, je le souhaite aussi. J'ai déjà un sac plein et un autre aux trois quarts rempli. 15 000 francs, ça serait vraiment bien. Bon, à demain. Quand est-ce que tu amènes encore la petite ? C'est Lyra qu'elle s'appelle, n'est-ce pas ?
Oui, elle va bien. Avec tout ce qui se passe, je ne sais pas quand je vais la prendre avec moi.
En tout cas, n'oublie pas de l'embrasser pour moi.
Tu lui fais un signe d'adieu avec la main et tu la dépasses. Tu marches vite, car tu penses aux enfants qui sont allés à l'école et qui devraient être rentrés maintenant. Tu te presses aussi à cause du long détour que tu dois faire pour passer chez ta tante afin de récupérer Lyra. Tu as tout fait de te retourner au sommet de la colline et tu te retournes pour jeter un dernier coup d'œil derrière toi. De là-haut, la silhouette de ma Bileko est toute petite, une silhouette de femme âgée défiant la montagne, portant une charge plus large que son dos. Ce dos qui autrefois avait porté, soutenu, réchauffé dans la joie des enfants, trois enfants, mais qui maintenant ne transporte plus que des fardeaux de bois. Mais il faut continuer ta route. Tu te retournes et tu continues ta marche sur la grande route bitumée, sans pour autant empêcher que l'histoire de la dégringolade sociale de ma Bileko ne te poursuive. Cela avait commencé lors de la réunion tenue entre les deux familles, quelques jours après que son homme fut enterré, afin de faire le point sur l'héritage du défunt, comme le veut la tradition. C'est le moment que craignent toutes les femmes que tu connaissais. Le moment où le masque hypocrite affiché par les membres de la famille du mari, celui de la douleur partagée et de la compassion, craque pour laisser la place à une cupidité obscène. À côté, toutes les contraintes de la veuve éplorée imposées par la tradition avant la mise en terre de son mari ressemblent à une récréation. Rester assise sur une natte, les pieds nus, les cheveux ébouriffés recouverts d'un pagne, ne pas se déplacer seule, même pour aller aux toilettes, si ce n'est accompagnée de deux guiennes, celles-là même par lesquelles toute parole venant d'un homme ou adressée à un homme doit passer. Non. Cette fois-ci, c'était la curée. À peine la réunion avait-elle commencé que la grande sœur du mari défunt ouvrit les hostilités.
« Excusez-moi de prendre la parole avant vous, oncle, et tous les autres aînés qui êtes ici, mais j'ai tellement mal que je dois parler. Je vais dire ce que je pense puisque nous sommes en famille. J'ai eu honte de la façon dont cette femme a traité la mémoire de mon frère lors de la collation offerte au retour du cimetière. Si je ne m'étais pas retenue, j'aurais hurlé devant tous les invités. Avec tout l'argent que lui a laissé mon frère, cette femme qui en a profité toute sa vie n'a rien trouvé de mieux que d'offrir de la bibine à nos invités. Si encore il y en avait pour tout le monde, pas du tout. J'ai vu des gens se battre pour une bouteille de bière. C'est vraiment une insulte. J'ai failli mourir de honte. Que pense-t-elle faire avec cet argent? S'acheter de nouvelles robes et des bijoux ritulants, maintenant qu'elle s'est débarrassée de mon frère? Ah, Pételo, mon frère cadet, ton cadavre est encore chaud et tu es déjà oublié,
conclut-elle avec des trémolos dans la voix. Mabileko crut rêver. Elle savait que la réception après l'enterrement avait été digne. On avait servi des casiers de bonne bière locale et des dames jeunes de vin de palme, frais, à tous ceux qui les avaient accompagnés au cimetière. Et pour ceux qui ne buvaient pas d'alcool, on avait offert de la limonade et du jus de fruits. De toute façon, cette belle sœur ne l'avait jamais aimée. Elle avait été jalouse d'elle dès le départ, faisant semblant de croire que Mabileko avait épousé son frère par simple intérêt. Parce qu'à l'époque, Bileko ne travaillait pas. Elle n'avait même pas un petit métier. Alors que lui était instituteur, donc fonctionnaire, donc riche. Jalouse aussi parce que, répudiée par son mari après 6 ans de mariage, parce qu'elle ne lui avait pas donné d'enfant, elle n'avait jamais pu se remarier. Mais Bileko n'était pas dupe. Elle savait que tout cela n'était qu'une mise en scène pour chercher à la dépouiller de tous ses biens. C'était ce qui se passait toujours quand on était femme et veuve. L'oncle du mari, qui présidait à la réunion, joua au patriarche sage, rabrouant sa nièce en disant que tout cela était passé et qu'il fallait plutôt s'occuper de l'avenir, surtout l'avenir des enfants.
Combien d'argent son neveu avait-il laissé dans son compte? Quand allait-on faire l'inventaire des magasins? Et les costumes? Les paires de chaussures? Bileko ne pensait-elle pas que le moment était venu de partager entre ses belles-sœurs et belles-cousines une partie de tous ses pagnes et bijoux qu'elle possédait? Quant à son petit-fils, à lui, enfant de son fils aîné, donc neveu du défunt, il ne demandait pas grand-chose. La Mercedes lui suffisait.
Et il continua à compter, à raconter, à compter les objets de sa convoitise, jusqu'à ce qu'il ne trouve plus rien à ajouter à son inventaire. Ce fut le tour de la famille de l'épouse éplorée de répondre. L'aîné de la famille de Bileko prit la parole et se mit à protester, mais mollement, car il connaissait la coutume et aurait agi de même si c'était lui qui était trouvé du côté du mari. Il demanda timidement que l'on ne prenne pas tout, rappelant qu'il fallait songer aux enfants, qui avaient bien besoin d'une voiture pour les conduire au lycée, et surtout qu'on laisse la maison à la veuve, encore une fois, à cause des enfants. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que les autres ne pouvaient pas prendre ses biens parce que Mabileko en était aussi la propriétaire. Ce que tous avaient oublié, c'est qu'en dépit de son éducation plus que sommaire, Mabileko n'était plus une villageoise arriérée que l'on pouvait rouler dans la farine, mais une femme avertie. Ils avaient oublié qu'elle avait été une femme d'affaires qui avait voyagé à travers le monde, négocié des marchés avec des homologues européens, arabes et chinois. À peine l'ouzeur familial s'était-il tu, après ses contorsions verbales et ses périphrases alambiquées pour dire ce qu'il fallait dire sans vraiment dire ce qu'il fallait dire, que Bileko s'était redressé sur son fauteuil. le visage émacié, le corps fatigué par des nuits de veille et des privations du deuil, mais le regard brûlant d'une farouche détermination, elle se mit à les apostropher avec une insolence inhabituelle pour une femme dans ces circonstances.
« Où vous cachiez-vous pendant la longue agonie de votre parent sur lequel vous versez maintenant des larmes de crocodile ? Aucun d'entre vous n'a contribué à ses frais médicaux. Très peu l'ont visité quand il était hospitalisé. Et maintenant qu'il est mort, vous vous pointez ? Exigeant que votre cher parent adoré soit enterré dans un cercueil de luxe et que l'on offre du champagne et du whisky écossais à tous ceux qui ont assisté aux obsèques ? Mais où vous cachiez-vous donc avant sa mort ? Maintenant vous voulez la maison, la Mercedes, l'épargne, les bijoux, la télévision, les magasins, l'argent. Mais vous oubliez une chose, c'est que tout cela m'appartient. Et je connais l'intérêt de mes enfants, merci. Ne saviez-vous pas que votre parent avait un salaire d'instituteur ? Que j'ai acquis tous ces biens par mon travail, mes voyages, mes privations ? Je vais vous dire une chose. Je partageais tous mes biens avec mon mari. Mais maintenant qu'il est mort, j'en suis la seule propriétaire. Vous n'aurez rien. Vous m'entendez ? Rien. Nada.
Si la famille du mari défunt était choquée, sa propre famille l'était plus encore. Et cherchait à cacher son embarras. Aucune femme n'avait jamais osé parler ainsi à sa belle famille. Plus de doute, le monde était en train de s'effondrer. Plus rien ne tenait. Bientôt, ce sont les poules qui se mettront à monter les coqs. La stupeur du bel oncle se transforma en colère.
« Tu es sans respect. Je me demande comment mon neveu a pu garder pendant si longtemps une femme aussi insolente. »
fulmina-t-il.
« Tu es un serpent, non, une sorcière !»
hurla la belle-sœur.
« La mort de mon frère n'est pas une mort naturelle. C'est elle qui l'a bouffée pour que son commerce fleurisse. Je vous dis qu'elle a des pratiques démoniaques. Allez fouiller sa chambre, je suis sûre que vous y trouverez des fétiches. »
Joignant le geste à la parole, elle se précipita dans la maison. Comme des sauterelles, les autres sœurs et cousines du mari se levèrent pour la suivre, malgré les protestations de la famille de Mabilico, qui s'égosillait inutilement avec des « Arrêtez ! Vous n'avez pas le droit ! Nous allons vous maudire si vous touchez à quoi que ce soit !» Elles ouvrirent et vidèrent des tiroirs, des armoires et des placards. Elles ressortirent avec des belles robes, des pagnes wax et super wax, et des pagnes dentelles, des bijoux en or, des bagues et des colliers sertis de brillants. Puis, théâtralement, un sourire de satisfaction aux lèvres, la belle-sœur sortit la dernière et posa triomphalement au centre du cercle formé par les deux familles adverses un Bouddha massif en bronze doré. C'était le fétiche suprême, plus fort que tout ce qu'on trouvait chez eux, car celui-ci venait de l'Orient, pays des élixirs et des magiciens que l'on voyait dans les cassettes piratées des films indiens. Un murmure de stupéfaction, teinté d'appréhension, monta des deux côtés. Certains avaient peur de regarder la chose, a fortiori de la toucher, et pour cause. Peu avaient vu une statue de Bouddha. Aucun ne pouvait s'imaginer que cela se vendait dans les rues de Bangkok ou de Séoul aussi couramment que les statuettes en bois dans les aéroports africains. Sa propre famille commençait à douter d'elle et ne savait plus trop comment la défendre, tant la preuve de ses pratiques diaboliques était flagrante. Mabilico n'en pouvait plus de rage contenue. Elle se leva de son siège, jeta le pagne qui lui recouvrait la tête et hurla tout le monde, ses parents compris, de quitter sa maison, sa parcelle, qu'il déverpisse illico presto. Sinon, elle porterait plainte pour violation de domicile, de vol et menace. Une dernière chose.
Pételo, mon mari m'aimait. Nous nous aimions. Je ne porterai pas le deuil. Demain, je vais me faire tresser les cheveux. Je mettrai mon plus beau pagne et mes plus beaux bijoux. Il me regardera de là où il est et il saura que je me suis faite belle pour lui. Le reste, je m'en moque. Allez, basta, sortez !»
À partir de là, tout tout avait dégénéré. La parentèle du mari s'était mise à hurler que c'était à elle, Bileko, de quitter la maison de leur frère. « Non, la maison appartenait aux enfants du défunt, » ripostait la famille de Bileko.
« Mais quels enfants ?»
lança la belle-sœur.
« Avec tous ses voyages et ses nuits passées dans des hôtels à l'étranger, lors de ses soi-disant voyages pour s'approvisionner, rien ne dit que ce sont vraiment les enfants de mon frère. »
Ces mots blessèrent Bileko plus profond d'elle-même. Et de rage, elle lui répliqua que, quand on était stérile, on ne pouvait se permettre de parler comme si on savait comment on attrapait une grossesse. D'ailleurs, ce n'était pas par hasard que la belle-sœur était stérile. C'était parce qu'elle était une sorcière. Bouillonnante de colère, celle-ci se jeta sur Bileko, mais fut retenue par une cousine de Bileko qui la repoussa violemment. Elle tomba par terre. Quand elle se releva, elle tourna le dos à Bileko et à ses parents, se plia en deux, souleva son pagne et montra son postérieur dévêtu, geste de malédiction. Panthémonium total dans une cacophonie où des injures s'entrecroisaient et où les sœurs et cousines de la belle-sœur imprécatrice tentaient de franchir le barrage des mains et des bras qui les empêchaient d'aller boxer Bileko. Finalement, surpassée en nombre et dépassée par la tournure des événements, la famille de Ma Bileko battit en retraite. Et Bileko fut introduite, manu militari, dans un taxi qui la conduisit chez ses parents. Lorsqu'elle revint le lendemain, accompagnée de sa tante et de deux de ses enfants, elle faillit pleurer. Ses effets personnels, du moins ce qu'on lui avait laissé, avaient été sortis de la maison et jetés en vrac sur la véranda. Toutes les serrures avaient été changées. Le garage était ouvert, mais bien entendu, la Mercedes avait disparu. De rage, elle prit une grosse pierre et se mit à taper sur la serrure de la porte principale pour la casser. Comme s'il s'était caché pour effier ses faits et gestes, deux hommes apparurent. Elle reconnut l'un d'eux, un neveu de son mari, envers qui elle avait pourtant toujours été généreuse. Ils la bousculèrent, lui demandant de déguerpir. Elle se mit à les injurier à haute voix, ce qui attira une foule de badauds, qui allaient chacun de son commentaire, tandis que les enfants essayaient de défendre leur mère à coups de pied. Finalement, Ma Bileko, sa tante et ses enfants furent jetés hors de la maison, de la parcelle, dans la rue, humiliés et abandonnés à eux-mêmes. Elle t'avait raconté cette histoire un après-midi où, pour des raisons que tu ne te souvenais plus, vous étiez les dernières à quitter le chantier. Vous remontiez cette même colline, raccourci qui menait des bords du fleuve à la grande route goudronnée. Elle n'était pas aussi chargée qu'aujourd'hui. Elle ne tenait alors que son panier de provisions, maintenant vide. Toi, par contre, en plus de ton panier, tu portais l'ira, solidement attaché à califourchon sur ton dos. La journée avait été bonne, car, après pratiquement une semaine d'absence, les camions étaient enfin passés et vous aviez chacune vos 20 000 francs, bien dissimulés quelque part sous vos vêtements. Tout en marchant, vous parliez de votre routine habituelle, faite de cailloux et de chaleur, de poussière et de sueur, mais aussi de ce que vous alliez faire le lendemain, car ce serait dimanche, votre unique jour de repos hebdomadaire. Au bout d'un moment, tu t'étais arrêté pour réajuster le pagne qui s'était un peu relâché autour de l'ira. Mabilico, qui s'était aussi arrêté pour t'attendre, proposa soudain.
« Laisse-moi la porter jusqu'à la route, si tu veux bien. Il y a tellement longtemps que mon dos n'a pas connu la douceur d'un corps d'enfant. »«
Mais bien sûr, » avais-tu répliqué, craignant seulement que l'ira ne se mît à se débattre et à pleurer, car elle ne connaissait pas cette étrangère. Bien au contraire, elle souriait quand tu la transféras sur le dos de Bilico, comme si pour elle c'était un jeu.
Oh, ma petite, laisse grand-mère te porter,
dit Bilico, une fois l'enfant en sécurité sur son dos, alors que vous repreniez votre lente ascension. Tu avais alors scruté son visage, comme tu ne l'avais jamais fait auparavant. Des rides y traçaient leurs sillons enchevêtrés. Mais les rides ne veulent rien dire quand la dureté de la vie fait vieillir prématurément. À 40 ans, on en paraissait 50. Et le beurre de karité que l'on passait tous les soirs sur le visage n'y changeait rien. N'empêche, tu avais le sentiment qu'elle était ta mère qui aurait quitté son village, ses plantations de bananiers et ses champs de manioc pour échouer sur cette plage de galets. Le passage de l'enfant d'un dos à l'autre avait subitement créé une intimité forte au-delà de la solidarité naturelle que le chantier avait forgée entre toutes les femmes. Votre conversation devint plus personnelle et ces cheminements vous menèrent dans vos dos vos plus douloureux territoires. Tu lui appris ainsi que tu n'avais jamais passé ton bac à cause d'une grossesse inattendue et d'un mariage précoce. En retour, elle te révéla qu'elle avait une fille, un peu moins âgée que toi, qui avait été renvoyée de l'école à cause d'un abus sexuel de la part de son professeur. Sincèrement touchée, tu lui avais spontanément demandé le nom de sa fille.
« Zizina »,
avait-elle répondu. « J'aimerais la rencontrer », avais-tu poursuivi. Elle n'avait rien dit un moment, puis...
« Triste histoire. Elle a tant souffert. » Dieu merci, ça va maintenant. Depuis qu'elle a lu cette annonce dans le journal que l'ONU allait recruter 10 de femmes dans le pays pour faire partie d'un corps de police entièrement féminin destiné au Libéria, elle s'y croit déjà. Elle s'est inscrite à des cours du soir qu'elle paie elle-même grâce au métier qu'elle s'est inventé avec sa mobilette. Fournisseuse ambulante de cartes de recharge téléphonique pour portable et de piles pour toutes sortes de petits appareils électroniques.
Quel genre d'appareil, tu avais demandé ?
Des calculatrices, des montres, des caméras numériques, des lecteurs MP3. Ça marche assez bien. Il y a des jours où c'est grâce à elle que nous mangeons.
Tu ne sus ce qu'elle avait cru lire dans ton regard, puisqu'elle s'était brusquement arrêtée et avait lâché.
Tu sais, j'ai été très riche une fois.
Ce fut ainsi qu'elle s'était mise à te raconter son histoire. Une histoire tellement incrustée dans sa mémoire qu'elle pouvait s'en mémorer les moindres détails.
Tu ne peux pas comprendre la douleur, Mariana, quand j'ai été poussée brutalement hors de ma maison, de ma parcelle, par ces deux hommes que je me suis retrouvée dans la rue avec ma tante et mes deux enfants qui criaient effrayés.
Maman, maman, pourquoi nous chassent-ils de notre maison ?
Ils étaient traumatisés. Et cette foule qui se régalait avec malin plaisir de voir la grande dame du quartier réduite à une gueuse cherchant désespérément un taxi pour échapper à la honte. Après avoir évoqué ces mots de honte et d'humiliation, elle s'était tue. Toi aussi. Tu avais fait de même, car tu savais que tes paroles, quelles qu'elles fussent, seraient bien légères face aux siennes. Vous étiez arrivé au sommet de la colline, là où le sentier croise la grande route automobile, là où vos chemins se séparaient. Le soleil, devenu gros et rouge sang, ne chauffait plus, ce qui voulait dire que la nuit ne tarderait pas à tomber. Tu l'avais regardé dénouer en silence le pagne autour de Lyra et t'aider à replacer l'enfant sur ton dos. Celle-ci s'était mise à bouder et à résister, ne voulant plus quitter le dos de sa nouvelle grand-mère. Les caprices de l'enfant vous firent rire toutes les deux et firent revenir la bonne humeur. Après tout, la journée avait été bonne. Après avoir bien calé la fillette sur ton dos, et au moment de lui dire au revoir, tu n'avais pas résisté à la question qui te turlupinait. Pourquoi n'avait-elle pas saisi la justice? Car, après tout, ne vivions-nous pas dans un pays de droit, comme le claironnait la radio tous les jours? Elle avait soupiré.
Ne te fie pas aux lois qui sont sur le papier. Ils les écrivent pour plaire à l'ONU et à toutes ces organisations internationales qui leur donnent de l'argent et les invitent à leurs conférences. La vraie loi, celle que nous subissons tous les jours, est celle qui donne toujours l'avantage aux hommes. Si tu savais l'argent que j'ai dépensé en avocat et en procès. Cela a engouffré le peu qui me restait encore après la mort de mon mari. Tous ces douaniers et contrôleurs d'impôts à qui j'ai filé les matabiches pour ces soi-disant « amis de mon mari » à qui j'offrais des ristournes sur les iPods et autres gadgets électroniques. Aucun d'eux ne me connaissait plus. C'est ainsi que j'ai été dépossédée de tout.
Ce fut sur ces mots que vous vous séparâtes ce jour-là, alors que dans ta tête, tu te demandais, en te référant à ce que toi aussi avais vécu, s'il y avait pire endroit pour une femme sur cette planète que ce continent qu'on appelle Afrique.
Lu et approuvé. Bibliothèque sonore.
Voilà, c'est la fin de cette émission de Lu et approuvé. Donc ce soir, nous vous avons lu Photo de groupe au bord du fleuve. C'est de Emmanuel Dongala, écrit par Emmanuel Dongala. Et donc c'est aux éditions Babel. Et donc la semaine prochaine, nous reviendrons avec ce livre pour avoir un aperçu un peu plus large, puisque là nous avons lu le portrait d'une des femmes, et en fait il y en a une quinzaine dans ce bouquin, et on essaiera de survoler un petit peu toute l'histoire qui relie ces femmes la semaine prochaine. Donc merci à Annie d'être venue nous lire cet extrait, et puis on te retrouvera la semaine prochaine aussi. Et concernant Lu et Approuvé, c'est tous les mercredis soirs, donc à 23h30, aux alentours de 23h30 sur Canal Sud. Vous pouvez nous écouter en direct en région toulousaine sur le 92.2 ou sinon en direct également sur internet sur www.canalsud.net. Vous pouvez également nous réécouter en podcast donc sur le même site ou sur le blog de Lu et Approuvé, luetapprouvé.guyade.org. Non, c'est pas ça, Lu et Approuvé. noblogs.org. Et l'adresse mail, si vous voulez nous contacter, c'est luetapprouvé@guyade.org. Voilà, si vous voulez nous envoyer des lettres, vous pouvez le faire. C'est à Canal Sud, émission Lu et Approuvé, 40 rue Alfred Duméril, 31400 à Toulouse. Et je crois que j'ai rien oublié, je crois que j'ai tout dit. Plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à l'antenne de Canal Sud.
Bonne soirée.
Et à la semaine prochaine.
Allez, bonne nuit.
Qu'est-ce qu'un livre si nous ne l'ouvrons pas? Un simple cube de papier et de cuir avec des feuilles. Mais si nous le lisons, il se passe quelque chose d'étrange. Je crois qu'il change à chaque fois.
to a better world, 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 a better world.